Matin Première.
Connexion.
8h41, Connexion retourne déjà en classe ce matin. On est en avance, Pierre-Yves Meugen, bonjour.
Oui, de quoi faire mal au ventre à certains peut-être, mais dans quelques jours, les bancs de l'école seront à nouveau occupés par de nombreux élèves. Alors entre les maths, le français, les sciences, et bien de nombreux adolescents auront aussi droit aux cours de latin ou de grec, voire de langues anciennes qui sont enseignées dans le secondaire depuis de nombreuses années chez nous en Belgique. Mais pourquoi est-il toujours aussi important d'étudier ces langues, des langues pourtant inutilisées dans nos sociétés modernes ? Connexion vous pose la question, ne serait-il pas plus intéressant finalement d'orienter les élèves vers des langues comme le chinois, le russe ou l'arabe, des langues modernes qui se révèlent parfois plus utiles. On verra que le mot crispe parfois sur un CV. Au contraire, vous estimez que les langues anciennes sont justement le lien direct avec le monde antique, son histoire, sa culture, et qu'il est essentiel d'en préserver l'enseignement. Eh bien, on va en débattre tout au long de cette émission.
Et pour en débattre, ce matin, notre invité est Claire Verly. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure de langue ancienne à l'Athénée royale de Kuckelberg. Vous êtes également présidente de l'association de la communauté française pour les langues anciennes. Alors, est-ce que l'on peut poser le débat comme ça, selon vous, opposer l'enseignement des langues modernes à celui des langues anciennes?
Bien, moi, je pense que, évidemment, à l'heure actuelle, dans notre société, avoir un bagage de langue est vraiment un plus. Ça, c'est un fait. Mais je pense que dans ce cas-ci, on ne peut pas parler d'opposition, mais plutôt de complémentarité. Le latin, je pense que ça a été assez démontré, il y a énormément d'articles sur le sujet, est clairement un soutien pour apprendre ces langues modernes. Ça facilite clairement l'apprentissage des langues modernes. Quand vous apprenez une langue, vous devez faire deux choses, donc apprendre à décoder un message et utiliser des outils de communication. Le latin, c'est une pratique réflexive sur la langue et clairement, ça facilite la maîtrise et la compréhension de ce message. Et en même temps, de par le vocabulaire, de par l'étymologie, ça apporte un plus dans la maîtrise des outils de communication.
On continue à en discuter jusqu'à 9h avec nos auditeurs qui nous appellent au 02 737 33 33. On attend également le récit de vos expériences sur les réseaux sociaux.
Alors, le latin est-elle une langue morte et enterrée? À vous entendre, pas forcément.
Benoît de Bruxelles, je trouve, pour le cas particulier de la Belgique, que c'est scandaleux d'apprendre aux étudiants du latin quand ils ne sont pas capables de parler néerlandais au bout de leur dernière année de secondaire. Merci.
Bonjour, ici Jeroen de Bruxelles. À mon avis, apprendre le latin, c'est très pratique, car c'est pas seulement une langue, c'est aussi la base de la culture européenne. Au nord et au sud, tout est basé sur les histoires et les mythologies grecques et romaines. C'est très pratique de connaître la base de notre culture.
Bonjour, Jérôme Jadoul de Malone. Je pense que les langues modernes ont le double intérêt de nous faire apprendre ou comprendre des choses un peu différentes de nos langues nationales, tout comme peut-être les langues anciennes. Mais elles ont également l'avantage de nous ouvrir une porte vers une autre partie du monde qui, au XXIe siècle, nous est tout à fait ouverte, là où le latin ne va probablement pas nous apporter beaucoup de débouchés, même si j'ai absolument rien contre le latin et le grec. Force est de constater qu'à l'heure actuelle, c'est peut-être plus intéressant d'apprendre des langues telles que le chinois, le russe, l'anglais, ou des langues de ce type qui pourraient clairement nous aider dans le futur. Voilà. Au revoir.
Prénom, c'est Francis. Au sujet des langues anciennes, je pense qu'elles inculquent aux gens qui les étudient une méthode, une analyse de travail ou de situation, au même titre que la géométrie et les mathématiques en général. Les supprimer, oui, on peut, mais on enlèvera peut-être quelque chose dans la méthode d'analyse des gens qui doivent nous diriger ou construire des choses, médecins, ingénieurs, etc. Voilà, merci.
Alors on le voit, le débat est un peu houleux. Je vous ai vu réagir, tiquer en tout cas sur certaines interventions qui disaient « mais laissons plutôt la place aux langues modernes, elles seront bien plus utiles, surtout en même temps en Belgique où nos élèves sont déjà pas forcément toujours bons en néerlandais ». On voit qu'il y a un néerlandophone qui nous a appelé et pour qui le latin est important. Ça vous fait dire quoi ça ?
Bien, comme je l'ai déjà dit, pour moi c'est une complémentarité, c'est-à-dire que le latin est un soutien pour apprendre les langues. C'est un plus pour apprendre les langues, ça vous facilite la vie. Je prends un exemple assez, peut-être, enfin, une comparaison assez basique. Mais quand vous devez monter une chaise, vous pouvez la monter avec un tournevis. Ça va aller, mais si vous avez une visseuse, ça va deux fois plus vite et c'est deux fois plus facile. Ben, le latin, c'est un peu la visseuse des langues modernes, quoi. C'est une comparaison un peu simpliste, mais vraiment, c'est vraiment ça. Pour moi, ça, c'est indéniable. Et alors, le deuxième point, c'est que, comme on l'a entendu, apprendre le latin, c'est plus qu'apprendre une langue. C'est découvrir une culture, et c'est une culture qui, qu'on le veuille ou non, c'est un fait établi dans l'histoire, a influencé toute l'Europe. Donc, pour moi, c'est une discipline qui donne aux élèves des outils culturels, des armes culturelles pour leur vie de tous les jours, quoi.
Alors, un auditeur nous disait sur Twitter, le latin m'a apporté une capacité de réflexion, une version latine est pour moi bien plus difficile à résoudre, enfin, ou l'était en tout cas à l'époque, que n'importe quel problème mathématique auquel j'ai pu être soumis au long de ma vie.
Bien, écoutez, encore une fois, comme moi je refuse de faire de l'opposition de savoir, puisque j'estime que tous les savoirs sont utiles et que le problème, c'est qu'actuellement on en remet certains en cause et qu'on devrait en remettre aucun en cause. Je ne vais pas avoir la prétention de dire qu'une version latine est plus difficile qu'un problème mathématique.
Carré, par exemple.
Voilà, tout à fait. Mais une chose est sûre, c'est que le latin met en pratique non seulement la logique, comme les mathématiques, mais aussi des tas d'autres choses. La réflexion linguistique, l'organisation de l'étude aussi, puisque c'est une matière quand même très rigoureuse, quoi.
Et pourquoi vous expliquez que finalement le latin se perd un peu, en tout cas que les élèves aujourd'hui ont le choix, c'est plus une obligation en premier degré du secondaire, on n'oblige plus à avoir le latin s'il est si, je dirais, utile pour la formation de l'esprit, etc. Pourquoi ça on n'oblige plus ?
Bien, comme vous le savez, nous sommes un peu dans une société d'abord de l'immédiat, de plus en plus du concret. On est de moins en moins dans la pensée abstraite. Et d'ailleurs, généralement, c'est un problème avec les élèves qui sont dans l'enseignement supérieur. Ils ont bien moins bonne maîtrise de la pensée abstraite. Et donc, du coup, comme le latin, on n'en perçoit pas l'utilité immédiate, c'est-à-dire que le néerlandais, vous pouvez sortir, vous pouvez le parler dans la rue, le latin, ça va être beaucoup plus difficile. Les gens n'en ressentent pas l'effet directement. C'est particulièrement vrai chez les ados qui veulent, comme n'importe quel adolescent, tout de suite. Et donc, du coup, ils ne sentent pas cet effet, quoi.
On oppose un peu, finalement, l'utilité au goût d'apprendre. Jim, sur Twitter, disait « Apprendre les langues anciennes permet d'éviter cette question erronée. À quoi ça sert ?» Nous ne formons pas des employés. Chaque année, je réponds à quoi ça sert, ironiquement, par à rien. Seuls les animaux n'apprennent que ce qui est utile. Vous êtes d'accord avec lui ?
Je suis tout à fait d'accord avec lui, effectivement. Moi, ça me gêne beaucoup, vraiment, cette vision utilitariste qu'on a actuellement du savoir. Je trouve que, voilà, on parle ici d'enseignement général, pas d'enseignement technique ou professionnel. Et l'enseignement général, comme son nom l'indique, il est là pour donner une formation générale et pour préparer l'élève à des études supérieures, à ce qu'il va faire après, pour lui donner une vision d'ensemble de tout ce qu'il est possible de faire dans la vie.
Est-ce qu'on a des chiffres, une idée sur l'enseignement du latin ces 50 dernières années, par exemple, ou par région, ça s'organise comment ?
Bien, écoutez, comme je suis président de l'ACFLA, je connais surtout les chiffres pour la communauté française. Dans l'enseignement officiel, on observe une légère baisse, mais cette baisse est généralement mise en parallèle avec tout simplement la baisse du nombre d'élèves fréquentant l'enseignement officiel au profit d'autres réseaux. Pour les autres réseaux, je n'ai pas les chiffres, donc ce serait plus difficile à dire. Mais de manière générale, moi, je trouve que c'est assez rassurant et que, par exemple, par rapport à nos voisins européens, l'enseignement du latin, en Belgique francophone, en tout cas, encore une fois, se porte assez bien.
On est bon au niveau européen, au niveau de l'enseignement du latin. On reste encore, pas dire un exemple, mais enfin, c'est vrai que la Belgique, un peu, quand on demande aux gens, souvent, les gens ont fait du latin à l'école.
Mais écoutez, je ne sais pas ce que vous entendez par bon, si vous entendez performant ou s'il y a encore une grande quantité de personnes.
Grande quantité dans ce cas-ci.
Oui, je pense que oui. Proportionnellement à notre population, oui, tout à fait.
Alors, on va écouter d'autres questions. Je voudrais juste avant encore vous poser celle-ci. Olivier sur Twitter disait, ça va peut-être vous faire réagir et tiquer nouveau. D'après moi, les langues nationales ainsi que l'anglais devraient être apprises. Laissons les langues mortes aux spécialistes. C'est vraiment difficile d'apprendre le latin et le grec.
Ben écoutez,
c'est à la portée de tout le monde.
Moi, j'enseigne dans une école avec des élèves qui viennent de différents milieux. Et je trouve que les élèves, peu importe le milieu d'où ils viennent, s'en sortent généralement assez bien à partir du moment où ils ont la volonté de travailler, parce que c'est une matière qui demande du travail, ça c'est sûr, et la curiosité intellectuelle. Il ne faut pas spécialement être performant intellectuellement pour faire du latin, mais il faut être curieux, il faut avoir envie d'apprendre.
Alors, on va écouter une nouvelle question laissée sur le répondeur.
Un ardent défenseur du latin de Bruxelles. Le latin ne peut en aucun cas être mis sur le même pied qu'une autre langue, quelle qu'elle soit. L'étude du latin apporte de nombreux avantages bien connus, mais le principal est celui-ci. Avec les mathématiques, c'est le cours qui développe le plus le raisonnement. En effet, une version latine impose une véritable gymnastique de l'esprit. Merci de bien vouloir réfléchir à ceci.
Alors, Séverine de Bruxelles est aussi en ligne avec nous normalement. Bonjour Séverine.
Bonjour.
Vous êtes professeur, vous, de latin. Quelles sont généralement les réactions de vos élèves face au latin lorsqu'ils arrivent en classe? Ils l'ont choisi ou c'est plutôt les parents qui les orientent? Ça se passe comment?
De plus en plus, ce sont les élèves eux-mêmes qui choisissent le latin. Bon, moi, je suis professeur de latin et de grec, donc j'ai la chance d'enseigner encore en plus le grec dans un gros collège bruxellois, mais pas le plus gros de Bruxelles. Mmh. Et donc, j'ai une population assez mixte. Et autant, il y a peut-être 15-20 ans, c'était dans les traditions familiales de poursuivre les langues classiques, que maintenant, c'est vraiment un choix de l'élève. J'ai même eu l'année passée un élève qui s'opposait à ses parents, qui voulait qu'il fasse quelque chose d'utile, et des sciences en l'occurrence. Et l'élève était très motivé par les langues classiques et essayait de convaincre ses parents de continuer. Donc, c'était assez surréaliste pour moi, ce genre de situation.
Et donc, vous parvenez à les passionner, justement. C'est vrai que des versions latines, parfois, ça peut paraître être un peu rébarbatif, etc. On parvient à les séduire encore?
Oui, on essaye en tout cas. Je pense que la particularité des professeurs de langue classique, c'est qu'on est particulièrement passionné par notre sujet, qu'on doit défendre chaque année de plus en plus. Bon, moi, j'ai ici des collègues plus jeunes que moi qui viennent d'arriver, qui ont choisi de poursuivre ces études-là alors que c'était déjà largement passé de mode. Et donc, il y a une réelle passion des enseignants pour cette matière. Et je pense que ça se ressent au niveau des élèves, oui.
Alors, on ne va pas opposer les savoirs, hein, comme le disait Claire Verly il y a un instant. Mais est-ce que parfois, certains de vos collègues, soit pour les langues modernes, soit des collègues plus scientifiques, vous disent, mais enfin, finalement, voilà, ce sont des cours qui ne servent plus à grand-chose.
Ça arrive qu'il y ait des collègues qui soient moins pro-langue classique, mais voilà, on essaye de ne pas s'opposer entre collègues d'une même école et on essaye de faire valoir les intérêts de tous les cours. Je dirais que la difficulté, parfois, c'est par rapport à la pléthore d'options qui existent, c'est qu'on a des élèves qui sont très motivés pour toute une série de domaines et qui doivent laisser tomber les langues anciennes parce qu'il y a les sciences, il y a les maths et qui voudraient tout faire. Mais sinon, on essaye de ne pas s'opposer entre nous. Non, c'est vrai qu'on évite de dire du mal des collègues et de leurs cours.
Merci pour votre intervention. Claire Verly, vous le disiez juste avant, quand on préparait cette émission, finalement, ce qui est le problème aussi, c'est un peu le volume horaire maximal qu'on impose aux élèves. On leur impose des choix qui fait que certains abandonnent le latin parce qu'ils veulent aller vers d'autres options alors qu'ils voudraient, si possible, garder aussi le latin.
Oui, voilà, tout à fait. Bon, à un moment donné, évidemment, dans la vie, il faut choisir la voie qu'on va suivre et il faut tout doucement s'orienter. Donc, le choix d'option, c'est quelque chose de normal. Mais en même temps, pour moi, le volume horaire maximal tel qu'il existe à l'heure actuelle fait que, voilà, un élève ne peut pas avoir dans le troisième degré plus de 34-35 heures par semaine. Et si vous avez un élève à la fin de la quatrième qui adore les maths et qui adore le latin et le grec, il aimerait peut-être bien pouvoir faire latin-grec-maths. Mais au niveau du volume horaire, ce n'est pas possible. Donc, vous avez des élèves, comme je vous le disais hors antenne, des élèves qui veulent faire polytech mais qui adorent le latin et le grec, mais qui vont arrêter pour aller dans une option
maths forte. Voilà. Il est possible aujourd'hui de faire des options latin-langue, par exemple?
Bien sûr, tout à fait. Dans mon établissement, ça existe, et dans beaucoup d'autres établissements aussi, hein. Donc, dans le troisième degré, vous avez une option latin-langue qui propose, en plus des 4 heures de néerlandais et des 4 heures d'anglais, puisqu'on est à Bruxelles, une option latin-allemand ou latin-espagnol.
Alors, je voudrais qu'on écoute aussi un instant, puisqu'on posait la question des langues plus modernes. Pourquoi ne pas se tourner aussi vers des langues comme le chinois, le russe, qui peuvent être utiles, même s'il me déplaît sur certains CV? Stéphanie Houillard, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes porte-parole du Forum. Quelles sont les langues aujourd'hui qui sont demandées sur les CV pour les préparations, par exemple? Est-ce que des langues comme le russe, le chinois occupent une place encore importante?
Dans l'ordre, on a un trio de tête qui reste le même, c'est le néerlandais, l'anglais et l'allemand, en tout cas pour la Belgique. Les trois langues réunies représentent plus de 90% sur les demandes qui sont présentes sur les offres d'emploi que nous diffusons.
C'est ça.
Au niveau du Forum, oui.
Et est-ce que le Forum serait par exemple demandeur que les écoles puissent s'ouvrir aussi sur des langues plus lointaines qui permettraient des débouchés sur des emplois auxquels on ne pense pas forcément?
On peut le faire. Toute compétence acquise est bonne à prendre pour nous, parce qu'on remarque que c'est vraiment un plus à partir du moment où on se retrouve sur le marché de l'emploi. Néanmoins, j'entendais beaucoup de vos auditeurs qui parlaient par exemple du russe. Il faut savoir que nous organisons des stages de langue dans des pays émergents et des cours intensifs de langue, par exemple en russe ou en mandarin. Il faut savoir que, par exemple, les jeunes qui vont partir là en septembre, on n'est pas arrivé à compléter le groupe de 20 qui devait partir en Russie.
D'accord.
Donc, Je pense qu'on en parle beaucoup dans le déclaratif, mais quand on se retrouve dans les faits, nous, on voit qu'on a parfois une difficulté à aller chercher cette population, à leur dire qu'il faut l'ouvrir dans le secondaire. Oui, peut-être, ça a peut-être amené un intérêt, mais alors, avant tout, il faut peut-être intensifier ici le néerlandais, l'anglais et l'allemand, qui restent pour nous des langues d'insertion beaucoup plus rapides et beaucoup plus demandées.
Très bien, merci beaucoup Stéphanie Huillard d'avoir été avec nous. Une question peut-être encore, Claire Verly, quand on dit que le latin pourrait être élitiste, ou encore, on voit une image en tout cas élitiste en disant certains milieux poussent plutôt leurs enfants vers le latin, alors que d'autres diraient, bah, écoute, non, mon fils, tu vas aller faire l'économie ou quoi, ça va t'apporter plus vite quelque chose. C'est vrai ça ou... Vous n'êtes pas tout à fait d'accord
avec ça. Le côté élitiste du latin, c'est quelque chose que ces disciplines véhiculent depuis des années, et qui pour moi, encore une fois, quand je vois le milieu dans lequel je travaille, ben, c'est peut-être quelque chose qui était valable il y a 30 ans parce que le latin et le grec, c'est ce qu'il fallait faire pour avoir fait médecine. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité, ça n'a plus lieu d'être en aucun point. Et qu'au contraire, c'est vraiment, justement, pour des élèves qui peuvent venir de milieux plus défavorisés, c'est une arme en plus, quoi, vraiment.
Très bien, on va peut-être terminer, Francine, avec deux ou trois réactions sur Twitter.
Oui, sur Twitter, beaucoup de défenseurs du grec et du latin. C'est étonnant, mais ils sont là. Lucien nous dit qu'il a fait 6 ans de latin et que cette logique l'aide beaucoup dans son travail. Il exerce dans le secteur de l'informatique. Benoît va dans le même sens. Les langues anciennes construisent notre manière de raisonner, notre pensée analytique, dit-il. Et puis, elles sont les racines de notre culture. Et puis, la question de la façon dont on enseigne ces langues revient. Nini nous dit d'accord pour l'enseignement des langues mortes, à condition que la pédagogie, elle, soit vivante. Et puis, beaucoup dénoncent aussi ce qu'on a fait avec notre invité hein, Claire Verly, cet utilitarisme d'une langue qui devrait forcément être utile.
Eh bien, vous écoutez, visiblement, on n'enterrera pas le latin d'ici très prochainement en tout cas. Moi, je vous retrouve ce soir avec un nouveau débat.
Podcast La Première.